Chapitre 19. Septembre 2018. C'est la rentrée à Maple House. Sean a pris ses fonctions depuis plusieurs jours déjà, mais aujourd'hui une fébrilité nouvelle et excitante flotte dans l'air, remarque Sophie en le regardant se préparer. La journée doit commencer par une réunion générale durant laquelle Sean prononcera un discours sur lequel il travaille depuis des jours. Il s'est entraîné à le prononcer hier soir, au pied de leur lit, en boxeur et chaussettes, pendant qu'elle était allongée et jouait le rôle de l'auditoire. « Parfait !» s'était-elle exclamée en applaudissant à tout rompre. « Absolument parfait. Chaleureux, humain, inspirant. Pas trop court ?»« Non, juste le temps qu'il faut. C'est impeccable. Et si j'en juge par l'accueil qu'on t'a réservé au dîner tout à l'heure, le public est déjà conquis. Tu penses ?»« C'est évident. Et c'était vrai. » Partout où ils étaient allés discuter, elle avait senti l'affection qu'on lui portait déjà et le profond respect qu'il suscitait autour de lui. Elle avait eu l'impression que les gens étaient vivifiés après lui avoir parlé, flattés par l'attention qu'il leur accordait, que sa seule présence avait réussi à remobiliser les troupes pour le semestre suivant. Sean est parti au lycée et Sophie se retrouve seule. La maison est fraîche et calme. Son ordinateur est ouvert sur la table de la cuisine, son roman lui fait de l'œil, sa messagerie déborde de mails professionnels sur lesquels elle devrait vraiment se pencher. Il faudrait aussi vider le lave-vaisselle et quelques cartons, mais elle n'a aucune envie de s'atteler à ses corvées. Elle s'installe, démarre son navigateur et tape « Liam Bailey ». Comme elle s'y attendait, des dizaines de résultats apparaissent, mais ce n'est pas le bon individu. Elle ajoute « Maple House ». Le site web de l'établissement apparaît. Elle supprime « Maple House » et ajoute « Scarlett Jack ». Aucun résultat. Elle essaie « Zach Alistair ». Aucun résultat. Elle soupire et s'enfonce dans sa chaise. Comment est-il possible que deux jeunes gens aillent au pub un vendredi soir, n'en reviennent jamais, et que personne ne sache ce qui leur est arrivé? Ce mystère la consume. Il est là, partout, entre les branches des arbres de la forêt, dans les couloirs du lycée, sur le balcon de Liam, à la surface de l'étang sur la place du village, au bord de la fenêtre de Kim Knox, près de l'arrêt de bus, dans l'écrin noir où est rangée la bague. À cette pensée, elle se lève abruptement et se précipite dans l'escalier jusqu'à sa chambre, ouvre le tiroir d'un coup sec et attrape la boîte. Elle en frotte le couvercle avec ses doigts, mais elle ne parvient toujours pas à déchiffrer l'inscription en lettres d'or. Elle va dans la salle de bain et nettoie le coffret avec le coin humidifié d'une serviette. La poussière disparaît et les lettres brillantes se révèlent. Elle frotte un peu plus fort, ajoute de l'eau et recommence l'opération. Enfin, elle lit distinctement « Bijouterie Mason et fils, Menton ». Son sang ne fait qu'un tour. Menton. C'est la ville la plus proche d'Upfield Common, située à une dizaine de kilomètres à peine. La ville où Tallulah étudiait. Sophie doit s'y rendre à tout prix. Maintenant. Mais elle ne conduit pas. Y a-t-il une compagnie de taxi susceptible de la prendre en charge ici? Le personnel du lycée pourrait sans doute la renseigner, mais elle ne tient pas à ce que tout le monde sache qu'elle va à Menton. Elle pense à l'arrêt de bus, au rose Tallulah. Elle glisse l'écrin dans son sac à main, traverse le parc du pensionnat, franchit le portail et va patienter sur le banc en plastique. Le bus arrive une demi-heure plus tard. Elle s'installe au milieu du véhicule. Il n'y a que deux autres passagers à bord. Pendant que le bus parcourt lentement les petites routes de campagne jusqu'à la départementale, après le grand rond-point, Sophie imagine Tallulah assise à sa place, son sac à dos posé sur les genoux, un air songeur sur ses traits délicats, le soleil faisant scintiller le piercing de son nez, une mèche de cheveux sombres retombant sur son visage. Le trajet jusqu'à Menton dure 20 minutes. C'est le terminus. Le chauffeur allume et éteint les lumières pour inviter les voyageurs à descendre. Sophie indique le nom de la bijouterie dans Google Maps, suit les indications et tourne dans une ruelle perpendiculaire à la rue principale. C'est une petite boutique ancienne, avec une vitrine basse qui attire le regard. Sophie s'arrête et admire les bijoux exposés avant de pousser la porte. Son cœur s'emballe. C'est exactement le genre de magasin qu'elle utiliserait dans les intrigues policières des détectives de Heather Green. L'espace est saturé d'objets. Derrière le comptoir, un homme au physique atypique, perché sur un tabouret haut, est absorbé dans la lecture d'un roman. Il est minuscule, avec des cheveux blancs coupés très courts et des lunettes rouges à monture épaisse. Quand il voit Sophie s'avancer vers lui, son visage s'illumine. « Bonjour, madame. Comment allez-vous »«
Très bien, merci. Que puis-je faire pour vous ?»«
J'ai une requête assez surprenante, à vrai dire. » Commence-t-elle en cherchant la bague dans son sac.
L'homme saute de son siège et lève les mains en l'air. « Ne tirez pas, s'il vous plaît, prenez tout ce que vous voulez. » Sophie le regarde, les yeux écarquillés. « Je... » L'homme éclate de rire. C'était une blague. Sophie se dit que ça lui apprendra à prendre au sérieux un homme qui porte des lunettes rouges. « Ah, je vois. » Bredouille-t-elle en posant l'écrin sur le comptoir qui les sépare. « J'ai trouvé ceci enterré dans mon jardin. Je me demandais si vous pourriez me dire qui en est le propriétaire. Enfin, je ne sais pas si vous conservez des archives. « Si, bien entendu !» s'exclame-t-il en tapotant un gros registre en cuir sur le bureau à sa gauche. « Toutes mes ventes y sont consignées depuis le jour où j'ai reçu les clés de la boutique, en 1979. Allez, regardons ça. » Il ouvre la boîte et attrape la bague entre son index et son pouce, puis la place sous la lumière blanche de sa lampe de bureau, s'emparant d'une petite loupe pour l'examiner. « J'aimerais vous dire que je me souviens de cette bague. » Car j'aime à croire que je garde en mémoire la trace de toutes mes ventes, mais il faut être honnête. Certains bijoux sont plus remarquables que d'autres, et ce n'est pas le cas de cette bague. Elle est de facture moderne, et le poinçon indique 2011. C'est de l'or 9 carats, et bien que ce joli petit diamant soit très brillant, il n'est pas d'une grande valeur. Heureusement, reprend-il en lui lançant un regard espiègle, j'ai un certain sens de l'organisation. Chacun de mes bijoux est répertorié par un numéro pour faciliter les démarches auprès des compagnies d'assurance en cas de vol ou de cambriolage. Alors, voyons cela. Il saisit l'écrin et en retire le fond de velours bleu, révélant une petite étiquette qu'il déchiffre à la loupe. Et voilà le travail, se félicite-t-il en adressant un sourire à Sophie. Numéro 8877. Il ne me reste plus qu'à vérifier la référence dans mon registre. Il semble trouver cette situation fort amusante. Elle affiche un sourire poli tandis qu'il tourne les pages de son cahier, faisant courir son doigt le long des lignes en fredonnant. Puis, son index s'arrête sur un point précis. « Eureka ! J'ai trouvé. Cette bague a été achetée en juin 2017 pour la coquette somme de 350 livres par un certain Zach Alistair. » Sophie est traversée par un frisson qui manque de la faire tomber à la renverse. « Zach Alistair ? Oui. Résident à Upfield Common. » Le nom me dit quelque chose maintenant que j'y pense. Vous le connaissez ? Non, pas vraiment. À vrai dire, je ne le connais pas du tout. Vous auriez aussi son adresse, que je puisse lui restituer cette bague ? Peut-être, répond-il d'un ton dubitatif. Oui, je vais vous la donner. Je ne devrais sans doute pas le faire, mais vous avez l'air digne de confiance. Tenez. Il pivote son registre vers elle, et Sophie prend rapidement une photo. À l'instant où la lentille de son portable fait la mise au point, elle reconnaît l'adresse. C'est l'impasse où vit Kim Knox. Bien sûr, c'est là que Zach et Tallulah devaient habiter au moment de leur disparition. Quelle idée saugrenue tout de même d'enterrer ce joli solitaire dans un jardin. J'imagine que sa demande en mariage n'a pas été acceptée, suppose-t-il avec nostalgie. Vous allez donc la rendre à son propriétaire ? Absolument, acquiesce-t-elle d'une voix décidée. Je connais cette adresse, j'y vais de ce pas. Je me demande bien ce qui va se passer. S'exclame-t-il en haussant les sourcils. « Je vous raconterai. Je compte sur vous. J'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. »« Je reviendrai, c'est promis », conclut-elle en rangeant l'écrin dans son sac et se dirigeant vers la sortie. « Merci mille fois. » Une heure plus tard, Sophie est de retour à Upfield Common. Il est presque midi. Elle traverse la place du village vers l'impasse. Il y a de la vie dans la maison de Kim Knox, la fenêtre du salon est entrouverte, et elle entend un rire d'enfant et le bruit de la télévision. Elle appuie sur la sonnette et recule d'un pas, se racle la gorge. Quand elle prend conscience de ce qu'elle est sur le point de faire, elle hésite à abandonner. Mais elle se convainc que les parents d'un enfant disparu ne désirent qu'une chose. Avoir des nouvelles. La bague qu'elle a trouvée pourrait apporter des réponses. La porte s'ouvre et Kim apparaît, vêtue d'une jupe courte en jean et d'un t-shirt noir. Elle est pieds nus, et ses cheveux sont attachés en queue de cheval. Elle observe Sophie à travers de jolies lunettes de lecture à monture noire. « Bonjour. »« Bonjour, je m'appelle Sophie, je viens d'emménager dans le petit cottage près de Maple House. Il y a une semaine. Au bout de notre jardin démarre un sentier qui mène au bois, et je sais que ça va vous paraître étrange, mais sur la clôture il y avait une pancarte portant l'inscription « Creusez ici ». Alors j'ai creusé hier, et j'ai déterré quelque chose. Une bague. Selon le bijoutier, elle a été achetée par un certain Zach Alistair qui vivait ici. Tenez. Elle sort l'écrin de son sac et le donne à Kim. Celle-ci la dévisage avec des yeux ronds, puis baisse la tête vers la boîte qu'elle prend et ouvre. Le diamant étincelle, éclairant le visage de Kim. Elle referme le coffret d'un geste sec. « Je n'ai pas bien saisi. Où avez-vous trouvé ça ?» Sophie lui répète son histoire. « Je viens d'aller à Menton pour essayer d'identifier le propriétaire. Le bijoutier tient un registre. Il m'a dit que la bague avait été achetée en juin 2017 par Zach Alistair, résident à cette adresse. Regardez. » Elle lui tend son téléphone pour lui montrer la photo du registre. Elle ne peut rien ajouter. Si elle en disait plus, elle révélerait qu'elle en sait trop sur cette affaire. Kim blêmit. Soudain, le volume de la télé augmente. « Baisse le son, Noah !» lance-t-elle en se retournant. « Non !» lui répond-on fermement. Kim lève les yeux au ciel. Elle a l'air de se demander s'il faut réprimander cet élan de rébellion, puis secoue la tête et pousse la porte derrière elle. Sophie la suit vers le muret du jardin, où elle s'asseye. « Cette bague appartient au petit ami de mon fils, » reprend Kim en ouvrant la boîte. « Il l'a achetée pour elle, pour la demander en mariage. Et, le soir où il devait lui faire sa déclaration, ils ont disparu. Depuis tout ce temps, je me demande ce qui est arrivé à la bague, et vous la découvrez et enterrez dans votre jardin à Maple House, juste à côté de la forêt qu'on a ratissée de long en large pour les retrouver. Et il y avait une pancarte à cet emplacement ?»« Oui, j'ai même fait une photo parce que ça m'a paru vraiment bizarre. Attendez. » Elle cherche la photo qu'elle a prise avant de commencer à creuser. Kim affiche une mine ébahie en examinant l'image. Le carton a l'air neuf. On dirait qu'il vient d'être mis là. C'est ce que je me suis dit aussi en le voyant. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une chasse au trésor qui avait été organisée récemment. Vous savez, Maple accueille toutes sortes de séminaires pendant l'été. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Puis j'ai creusé. J'ai l'impression que quelqu'un voulait que je trouve la bague. Kim lui lance un regard étonné. Pourquoi vous ? Je l'ignore. Je l'ai vu le jour de notre emménagement. Sean, mon compagnon, est le nouveau proviseur de l'école. La pancarte était clouée à notre clôture et je me suis dit... Sophie s'interrompt par peur d'en dévoiler trop. Eh bien, je ne sais pas ce que je me suis dit. Il faut que je prévienne la police, murmure Kim d'un air absent. Il faudra qu'il revienne, qu'il cherche à nouveau. Et cette pancarte, elle est toujours là ? Vous l'avez laissée à sa place ? Oui, répond Sophie en hochant la tête. Je n'y ai pas touché. Très bien. Et Kim se met à pleurer. Sophie passe aussitôt un bras autour de ses épaules. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous causer tant de peine. Je ne savais pas. Ce n'est pas votre faute, se ressaisit Kim en reniflant. Ne vous inquiétez pas. C'est super que vous ayez retrouvé cette bague. Vraiment. La police, ils ne font plus rien depuis des mois. Ils n'ont plus de pistes, plus d'argent. Ils ont renoncé. Donc ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci de l'avoir déterré, de nous avoir trouvé, de nous avoir rapporté cet objet. À l'intérieur, un enfant crie à tue-tête.
« Mamie, mamie, maintenant !»«
C'est mon petit-fils, » explique-t-elle en se levant. « Noah. Il a 2 ans et il est en pleine phase d'opposition. Je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai vraiment hâte qu'il retourne à la crèche dès la semaine prochaine. » Elle marche jusqu'à la porte, l'écrin à la main, puis se retourne vers Sophie. « J'ai l'impression de vous connaître. On s'est déjà vu quelque part ?»« Vous m'avez servi un cappuccino au pub l'autre jour. »« Ah oui, c'était vous. » Elle lui adresse un signe d'adieu et un sourire. « Merci, vraiment. Je vous suis infiniment reconnaissante. » Kim rentre chez elle et Sophie l'entend parler à son petit-fils par la fenêtre du salon. « Regarde ce que la gentille dame a trouvé. C'est une bague que ton papa avait achetée pour ta maman, mais il n'a jamais pu la lui offrir. Tu l'aimes ? Elle est jolie, n'est-ce pas ?